À une vingtaine de kilomètres de la frontière syrienne, dans le camp de réfugiés de Za'atari en Jordanie, où je me suis rendu le mois dernier aux côtés de Bibliothèques sans frontières, j'ai rencontré Moussa, un adolescent de 14 ans. Il me parle de Dera, la ville où il est né en Syrie et qu'il a dû fuir avec sa famille il y a déjà 6 ans. Il en garde des souvenirs épars, qu'il me livre du mieux qu'il peut. Ce sont des sensations parfois, des images souvent. Quand je rentre à Amman le soir, je regarde sur internet des images de Dera, cette ville où la révolution syrienne a pour ainsi dire commencé, il y a un peu moins de 10 ans, par des slogans tagués sur un mur par des enfants. Cette ville qui a vu le minaret de sa mosquée, la plus ancienne du pays, s'effondrer, puis brûler. Cette ville qui a connu combien de destructions. Les images que je glane ne sont que pierre et poussière. Sur un site qui regroupe des ressources sonores, écrites, visuelles de la révolution et qui est sans cesse mise à jour depuis 2011, je tente de combler les blancs de Moussa, de mettre des bruits, des mots, des images à ce qu'il m'a confié. Je tombe sur une statue à terre, les décombres d'une rue derrière, l'herbe a poussé dans la pierre et la poussière. J'essaie de tout reconstruire à partir de ces ruines. Évidemment, je n'y parviens pas. Les ruines, si ça se trouve, c'est aussi fait pour ça.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelles ruines sont à l'esprit de mon invité d'aujourd'hui, philosophe, historien de l'art, écrivain. Il sonde les silences, la fragilité, la puissance des images. Dans Éparses, son dernier livre, il pose son regard sur des archives méconnues du ghetto de Varsovie. Images, matières et mots, miraculeusement exhumés des ruines. Bonjour Georges Didier Huberman.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci à vous, merci à vous.
Tout d'abord, que nous disent les ruines ?
Elles nous disent des lambeaux, elles nous disent des fragments. Et ben, j'ai bien aimé votre récit, hein, parce que c'est un récit de ruines et où on comprend que si on veut faire de l'histoire, en fait, avec tout ça, il faut revenir aux documents, c'est-à-dire étudier les ruines d'une façon presque comme un philologue étudierait un texte, vous voyez. Mais aussi, vous avez bien, dans votre récit, vous avez bien montré que tout ça est fait de sensations, d'émotions, d'images, vous voyez. Donc il y a une sorte d'esthétique, mais vous savez, quand on emploie le mot esthétique, on dit ah, c'est la beauté, c'est l'art et tout ça. Non, esthétique, ça veut dire la sensation. Donc on ne peut pas faire de l'histoire sans tenir compte de la sensibilité, de la sensation.
Évidemment, les ruines nous disent aussi, Georges Didier Huberman, la destruction. Lorsque vous pensez à la Syrie, aujourd'hui, à laquelle vous faites d'ailleurs allusion dans votre livre, la Syrie qui connaît, dans la région d'Idlib, ces dernières semaines, la menace d'une crise sans précédent, qu'est-ce qui est en train d'être détruit, somme toute ?
D'abord les populations civiles. Nous, ce qu'on voit depuis les drones, on voit des villes entières réduites à l'état de gravats, comme ça a été le cas pour lorsque les nazis ont détruit entièrement le ghetto de Varsovie. C'était un vrai désert de gravats. Il y avait absolument plus rien.
Ce sont des images qui vous viennent immédiatement à l'esprit.
Ben, c'est très impressionnant de voir. Alors moi, j'ai vu ce film pour Sama. Le film de cette femme syrienne, mais qui date déjà de 2016, hein, donc Varsovie, le ghetto de Varsovie, sur lequel on sait très bien de commémorer, de se souvenir, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est Homs, enfin ça a été Homs, ça a été Alep, aujourd'hui c'est Idlib, et ce qui est insupportable, c'est que bon, vous savez, au moment de la guerre de 14, après la guerre de 14-18, on a décidé internationalement d'interdire les bombes au gaz. Pourquoi ? Parce qu'une bombe au gaz, si vous voulez, selon le vent qui passe, ça atteint tout le monde. Il n'y a plus de distinction entre les militaires et les civils. Donc très bien, on a interdit les bombes au gaz. Simplement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on atteint les civils exactement de la même façon. Et ce qui est insupportable, c'est que frapper les civils aboutit à quelque chose qui est que les civils ne peuvent faire que fuir. Alors, ils se présentent à nos portes. Ces civils qui s'en vont. Alors, ils sont frappés deux fois. On les frappe pour les mettre à mort et on les frappe en leur fermant la porte.
Georges Didier Huberman, qu'est-ce qu'on fait face à ces images qui nous viennent des médias toute la journée? Qu'en faire de ces images?
Alors, les images qui nous viennent des médias toute la journée, Le fait qu'elles nous viennent toute la journée, qu'elles soient répétitives, que leur montage est souvent très trivial, parce qu'une image c'est comme une phrase, hein. Selon que vous phrasez, c'est-à-dire selon que vous montez les différents plans d'une vidéo, hein, vous obtenez une phrase complètement différente, si vous voulez. Donc voilà, en ce moment à Paris, au Jeu de Paume, il y a une exposition très intéressante qui s'appelle le supermarché des images, où on rencontre très bien de cette façon dont on est noyé dans les images, mais simplement on est noyé aussi dans les mots. Donc ce qu'il faut faire, c'est choisir ces images, oui, choisir ces mots, prendre le temps avec une image, deux images, quatre images. Mais voilà.
Dans Peuple en larmes, Peuple en armes, l'un de vos précédents livres, vous parliez de la puissance du pathos, oui, de la puissance des larmes. Oui. Nos larmes, à quoi est-ce qu'elles peuvent servir? Qu'est-ce qu'elles peuvent produire, Georges Didier Huberman?
C'est pas tant que ça serve. Servir, ça veut dire que on voudrait utiliser toute chose comme le moyen pour une fin. Mais non, je dirais que aussi bien l'émotion que la politique, c'est une question de pur moyen, comme il y a un livre d'Agamben là-dessus très intéressant. C'est pas quels que soient les moyens, on va arriver à nos fins. Parce non, que... ça c'est pas l'attitude politique cohérente.
Parce que vous écrivez, des larmes sont montées. Oui. Je me suis dit alors qu'il fallait impérativement les faire redescendre au miroir de la page blanche et commencer d'écrire quelque chose pour que lamentation enseigne, nous soulève. De quel soulèvement est-ce que vous parlez ici, à partir des larmes?
Alors bon. Ce petit livre, c'est un voyage dans les archives clandestines du ghetto de Varsovie. Archives clandestines aux yeux des nazis, bien sûr, à l'époque, mais clandestines aussi aux yeux du gouvernement juif de cette époque. Donc c'est une sorte de trésor. C'est terrible à dire, hein. C'est un trésor de souffrance. Alors on est là devant ces choses. Alors je vais vous dire, moi je ne lis pas l'hébreu, je ne lis pas le yiddish et je ne lis pas le polonais. Mmh. Donc je suis arrivé dans cet endroit comme quelqu'un qui était simplement sensible, par exemple à la graphie ou à l'urgence ou au bout de papier ou à la matérialité d'un papier qui était complètement noyé dans l'eau. Et puis bon, l'objet de mon voyage, c'était que dans cette archive clandestine, eh bien il y avait une soixantaine de photographies dont les archivistes ne savaient que faire, ils savaient pas quoi, donc ils m'ont invité pour jeter un regard là-dessus.
Alors ça on revient à la question des ruines ici, qu'est-ce qu'il, oui, faut en faire? Est-ce qu'il faut les recouvrir? Est-ce qu'il faut les rendre visibles?
Les ruines, il faut dialoguer avec les ruines, il faut les faire parler, il faut être archéologue. De toute façon, il y a une attitude archéologique qui est absolument nécessaire, à condition, parce que l'archéologie, c'est pas seulement une science qui interroge le passé. C'est une science qui interroge notre désir d'aujourd'hui. Oui. Parce que on cherche, en fait, ce qui correspond à notre urgence d'aujourd'hui. Alors, la réponse à votre question d'il y a deux minutes, c'est que s'interroger sur Varsovie, à l'époque du ghetto et de l'occupation allemande, bon, c'est très important. Mais faire de l'histoire, c'est très important pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a commencé, je suis heureux qu'on ait commencé l'émission avec la Syrie.
Vous écrivez d'ailleurs, page 128 de votre livre, « L'histoire des autres ne cessera jamais de nous apprendre quelque chose sur la nôtre ». Qu'est-ce que l'histoire des Juifs du ghetto de Varsovie, telle qu'elle nous est donnée à voir à travers ses archives éparses, Georges Didier Huberman, nous apprend sur notre propre histoire?
Elle nous apprend beaucoup de choses, mais elle nous apprend quelque chose, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup touché. C'est autour de ce personnage qui s'appelle Emmanuel Ringelblum, qui a réuni autour de lui une soixantaine de personnes. De tous ces gens, il y a eu finalement trois survivants. Ces gens-là ont décidé, premièrement, de rester dans le ghetto.
C'était un historien qui vivait dans le ghetto.
C'était des intellectuels, ils auraient pu s'enfuir. Ils ont décidé de rester. Deuxièmement, ils ont passé leur journée à aider les autres. Ringelblum, il organisait 120 000 repas minables. Hein. C'était de la soupe, c'était que trois fois rien. Mais il essayait de subvenir à la... Il y avait un état de famine organisé par les nazis. Mais troisièmement, il a fait... Il a passé ses nuits à récupérer des documents, à écrire des chroniques. Voilà, on a trouvé quelque chose comme 35 000 pages de documents, finalement, ce qui était seulement une partie de ce qu'il a réuni et qui a été enterré un peu comme les témoignages des Sonderkommando d'Auschwitz, des prisonniers juifs d'Auschwitz qui avaient enterré leurs témoignages sous la cendre.
Et qu'est-ce que ça nous apprend, ça ?
Ça nous apprend que... Alors, il faut aussi lier ça au fait que le ghetto de Varsovie s'est soulevé. Alors, ça nous apprend qu'il y a des gens qui se soulèvent alors qu'ils ont trois grenades, deux pistolets. Ils se soulèvent contre une armée entière. Ils savent que c'est désespéré, mais ils se soulèvent. Ça veut dire, ça nous apprend quelque chose de l'ordre de la dignité, hein, tout simplement, de l'ordre de la... C'est une question... C'est des gens qui se soulèvent malgré tout. Ils savent qu'ils vont perdre, mais enfin, ils n'ont pas envie de mourir comme des chiens, ils ont envie de mourir comme des hommes. Voilà, ça nous apprend. Deuxièmement, ce que Ringelblum nous apprend, c'est qu'au cœur du désastre, il faut faire de l'histoire.
Celle qui ne fait pas d'histoire dans cette émission et qui ne se soulève jamais, peut-être que vous la connaissez, Georges, c'est la culture. Et son actualité inutile, vaine et superflue, que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 17 février ?
Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie.
Don't think twice, it's alright. Le chanteur d'origine néo-zélandaise Graham Allwright est mort à l'âge de 93 ans, pionnier de la protest song en France, passeur de folk et artiste humaniste. Il s'était fait connaître dès les années 60 en reprenant les classiques américains. Il avait ainsi adapté Leonard Cohen, Bob Dylan ou encore Peter, Paul and Mary, dont la reprise de Very Last Day, titrée Le jour de clarté, restera comme l'un des hymnes de la jeunesse de 68. Peace, love, respect.
Depuis 25 ans, il y a une croissance qui ne s'arrête pas. Ça va très très bien. Et pourtant, les auteurs vivent mal.
Ça coince pour les bulles. Moïse Kissou, président de la BD au sein du syndicat national de l'édition, a annoncé hier la création des assises de la bande dessinée. Une annonce qui intervient en pleine année du 9e art en France et deux semaines après la sortie du rapport Racine qui soulignait la précarité grandissante des conditions de vie et de travail des artistes auteurs. La manifestation devrait se tenir avant l'été et entend répondre à la crise de confiance que traverse le milieu. Il va donner le meilleur de lui-même et ce ne sera pas du luxe. Hier, Tom Lev, qui défendra les chances de la France à l'Eurovision, a révélé The Best in Me, le morceau qu'il chantera pendant la cérémonie, alternant le français et l'anglais. Le titre a notamment été écrit en collaboration avec Amir, participant 2016 du concours. La chanson s'accompagne d'un clip tourné sur la Tour Eiffel. Tremble, PNL.
Je suis accusé d'être membre d'une organisation armée, de l'avoir créée, de faire sa propagande, et comme si ça ne suffisait pas, d'avoir porté atteinte à l'unité de l'État et à l'intégrité territoriale du pays.
Et enfin, Asli is free. La romancière turque Asli Erdoğan a finalement été acquittée vendredi par un tribunal d'Istanbul. Elle était accusée depuis 2016 de tentative de porter atteinte à l'intégrité de l'État pour avoir écrit dans un journal pro-kurde. Son procès était devenu emblématique de la dérive de l'institution judiciaire de la Turquie de Erdoğan. Aujourd'hui, en Allemagne, Asli Erdoğan, lauréate 2018 du prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes, exclut la possibilité de rentrer dans son pays. Une autre arrestation signifierait la mort, a-t-elle déclaré. Et le philosophe, historien de l'art, écrivain Georges Didier Huberman, invité de Boomerang ce matin pour son nouveau livre magnifique qui s'appelle Épars. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, on commémorait les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Georges, quel regard est-ce que vous portez sur la manière dont la Shoah est commémorée aujourd'hui ?
Oh là 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 là. Alors, le passé, il n'y a rien de plus précieux. Comme le présent, il n'y a rien de plus précieux. Comme le futur, il n'y a rien de plus précieux. Maintenant, tout dépend de ce qu'on en fait. Alors, moi, je déplore au moins deux tyrannies, quoi. Pour ressaisir ce qu'on disait juste tout à l'heure, là. Il y a une tyrannie du présent. Donc, on se noie dans les images, les clichés. C'est pareil pour le langage, la langue de bois, etc. Et cette façon de nous noyer dans les images, au présent, c'est une façon de nous immobiliser dans le temps, c'est-à-dire de, on pense plus au passé, on pense plus au futur, oui. Ça va pas du tout. Mais il y a une tyrannie du passé aussi, malheureusement, c'est-à-dire que le passé n'est pas une chose fixe. Alors, commémorer, c'est très bien, et mais si on commémore pour fétichiser, si oui. on commémore pour fossiliser... Oui. Alors là, on oublie que le passé est à fleur de présent. On oublie que le passé nous fait signe. C'est pour ça que, rendez-vous compte, hein, l'histoire du ghetto de Varsovie, c'est quand même une histoire très connue. Comment se fait-il que ces 60 photos n'aient encore jamais été montrées? Enfin, elles l'ont été il y a quelques mois maintenant, finalement. Après mon passage là-bas, ils ont fait une exposition. Mais si vous voulez, c'est quand même incroyable. Que on garde encore des documents très importants. Le passé, il faut savoir, en fait, lui donner la force de notre désir présent.
Je me souviens
aller vers l'avant.
De ce texte que vous avez publié à l'occasion des 60 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait « Ouvrir les camps, fermer les yeux ». L'enjeu, c'est effectivement de garder les yeux ouverts. Oui. Georges Didier-Berman, comment on fait? On tente de regarder ce qui n'a pas été, ou peut regarder avant, ce que vous faites, en vous plongeant dans ce fond d'archives, précisément?
Il faut re-regarder. Il faut regarder avec attention.
Là, en l'occurrence, c'est découvrir.
Je sais pas, moi, les photos d'Auschwitz, les fameuses photos de ces prisonniers, il y en a quatre. Avant que je fasse mon travail, on en avait montré que trois. Parce que la quatrième, on voyait pas grand chose. Donc on estimait que c'était une photo ratée. Qu'est-ce que ça veut dire une photo ratée? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on disait, on va déchirer un bout de témoignage parce que c'est mal écrit. C'est pas possible.
On parlait de ce fond d'archives éparse, sans véritable cohérence, ce mot épars. Qu'est-ce qu'il vous évoque, à vous?
Alors, éparse est la suite d'un, en quelque sorte, c'est le second, ce que j'appelle des récits photos. C'est-à-dire, je vais quelque part, bon là, il s'agit de la Pologne, il s'agit de l'histoire de la Shoah. Donc, éparse, c'est la suite d'un récit qui s'appelait Écorce. Et dans les deux cas, je vais sur place, sans aucun projet, ni de recherche, ni littéraire, mais je fais des photos. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un lien, de la même façon qu'il y a un lien entre les images et le langage, moi je pense qu'il y a un lien entre la pratique photographique et le fait d'écrire. Moi, c'est les photos qui m'ont fait écrire.
Mais le mot épars, vous l'expliquez, il renvoie dans son étymologie à l'idée de dissémination et oui. d'ensemencement. Oui. À travers l'écriture, oui. qu'est-ce que vous avez l'impression de semer? Précisément.
Alors justement, il faut bien voir que ce mot, il a beaucoup de résonance. Je le trouve très beau d'ailleurs, épars, voilà. Et puis, moi j'ai été un lecteur de Jacques Derrida, donc l'idée de la dissémination est très importante. Alors disséminer, on revient à votre question sur les ruines. Disséminer, c'est casser en tout petits morceaux et mettre un peu partout. Alors il faut arpenter l'espace pour recoller, si on peut, les morceaux, mais en même temps disséminer, c'est le geste que fait le semeur quand il jette les grains de blé. Donc il y a les choses éparses, toutes petites, sont des choses qui survivent. Oui. La capacité de destruction des salopards est immense, mais il n'arrive jamais à tout détruire. Il y a toujours quelque chose qui reste dans les interstices, et très souvent, c'est un bout de papier.
Alors, c'est magnifique, hein, Georges Didier-Berman, ce que vous dites, ça engage aussi une réflexion sur le sens de l'écriture qui est très présente dans votre livre. Pourquoi et à quel moment est-ce qu'on éprouve le besoin d'écrire?
Je me souviens d'un récit où il y avait un type qui était en train de se faire assassiner et il voulait continuer de chanter une chanson, quoi. Bon, oui. C'est la même chose. Bon, si vous voulez écrire, c'est, je dirais, dans des circonstances extrêmes, écrire, c'est transmettre malgré tout.
Toutes les bouteilles à la mer ne parviennent pas sur le rivage, mais quelques-unes, oui. Tous les promeneurs sur la plage ne remarquent pas la bouteille couverte d'algues et de coquillages, mais quelques-uns, oui. C'est ce que vous écrivez, Georges Didier-Berman, page 160 de votre livre, c'est quelques-uns. Pourquoi est-ce qu'ils font la différence?
Ben, c'est ça le travail de l'épargne, de la dissémination. On détruit, on dissémine, on jette des morceaux partout, et puis il y a quelqu'un qui regarde sur la plage s'il reste pas un bout, et là il se met à le lire. C'est lui l'archéologue, et c'est lui qui va en quelque sorte prendre la perle. Il y a un très beau texte de Shakespeare sur là-dessus. C'est le corps de quelqu'un qui est au fond de la mer, et tous ses yeux deviennent des perles, ses os deviennent du corail, et l'archéologue, en fait, c'est aussi le plongeur qui va chercher dans la destruction et qui va chercher les semences d'une sorte, je ne dis pas de résurrection, il n'y a pas de résurrection, mais de survivance.
Mais s'il n'est que quelqu'un, s'il n'y a que quelques-uns, est-ce que c'est suffisant pour faire exister un propos, une pensée, une mémoire, Georges D. Huberman ?
Mais un propos important, il vient toujours de minorités, de gens qui sont en minorité. Spinoza était en minorité, par exemple. Bon, bah finalement, on a complètement oublié tous les gens qui l'ont censuré, et on se souvient encore de Spinoza.
Au final, parce que c'est ça la question que vous posez, comment est-ce qu'on fait pour préserver de l'oubli des pans entiers de notre histoire collective?
Ah bah, il faut travailler, il faut chercher, c'est ça le boulot de...
Il faut chercher.
Il faut chercher, vous avez récemment reçu Arlette Farge, je me sens très proche de cette éthique-là, c'est-à-dire chercher dans ce que les archives conservent de une sorte de contre-motif à tout ce qu'on raconte en général. Les archives d'Arlette Farge, c'est souvent des archives de la police, mais elle cherche la voix du petit peuple à l'intérieur du discours de la police. C'est ça son exercice de lecture. Alors moi, je fais un petit peu pareil, je crois.
On va reparler, évidemment, de mémoire, d'oubli, de sacré aussi, juste après une prière de Leonard Cohen, si vous le voulez bien. Who by Fire en 1974 sur l'album New Skin for the Old Ceremony. Vous êtes sur France Inter avec Georges D. Huberman. Vous écoutez Boomerang un lundi.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling?
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
On est quelque part entre Beethoven et Einstein. Einstein, la boucle fougueuse et symphonique à souhait, le regard prudent mais non moins intense, comme en embuscade derrière ses petites lunettes rondes. Il est à la fois follement terrien, les pieds ancrés dans le sol et doucement aérien avec les tuiles, ses lunettes dans la poche gauche de sa veste en laine. Le philosophe Georges Didier Huberman, invité de Boomerang ce matin pour parler de mémoire et d'histoire, une histoire qui est en vous, évidemment, celle de la Shoah. À quel moment de votre vie cette histoire a-t-elle commencé à vous hanter, Georges?
À ma naissance. Bon voilà, je fais partie d'une famille dont toute la partie, je dirais, polonaise a été décimée. Voilà.
Mais... Votre famille maternelle?
Ma famille maternelle, oui. Alors, d'abord, grand silence. Grand silence.
Comment est-ce qu'on vous l'a raconté?
On me l'a raconté avec la gorge nouée, et on me l'a très peu raconté.
Et qu'est-ce qu'on dit avec le silence, alors?
Alors, soit le silence est une chape de plomb, et alors vous arrivez pas à vous en sortir, soit vous échappez pour y revenir d'une certaine façon. Bon, moi je suis historien de l'art. J'ai commencé par l'histoire de l'art comme si m'échapper vers la beauté. L'histoire de l'art, c'est Fra Angelico, c'est magnifique. Et c'était une façon de m'échapper de cette chose extraordinairement noire.
Ça veut dire que les silences vous ont aussi appris à regarder, Georges Didier Huberman?
Oui, c'est pas mal dit. Oui, c'est ça. On pourrait dire ça. Mais si vous voulez, je me suis toujours intéressé dans les questions d'image et de représentation au cas extrême. Alors, ce qui fait que un jour, ça devait être en 1999, je me suis penché sur ces images de faites par les prisonniers d'Auschwitz. Voilà. C'est-à-dire que ce qui m'a toujours intéressé dans les images, c'est là où ça va au-delà de quelque chose qui est normalement dans la représentation constituée. Il faut chercher les cas extrêmes parce que c'est ça qui nous dit le plus. Alors bon, voilà, j'ai commencé à parler de ça. Jusque-là, je n'avais jamais été je n'avais jamais pensé qu'il était nécessaire de dire « Oui, vous savez, moi, c'est un peu l'histoire de ma famille, je suis juif, ta 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 ». Jamais, 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 jamais.
Aujourd'hui, ça l'est.
En fait, il y a eu une polémique, elle est ancienne maintenant, avec Claude Lanzmann, c'est lui qui m'a désigné publiquement comme juif, comme mauvais juif, si vous voulez. Alors du coup, malgré moi, je suis devenu un juif public. Maintenant, il faut que j'assume ça, je suis bien obligé. Voilà, donc je fais avec, ce qui veut dire que dans ce livre éparse, il y a des éléments autobiographiques ou biographiques de ma famille qui explosent tout de suite, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas moi, c'est pas ma famille, c'est pas ma maman, c'est pas ma grand-mère, non, ce qui compte, c'est l'histoire des hommes et des femmes voués à ce dispositif politique d'extermination.
C'est un texte sur la valeur que vous nous avez écrit ce matin, Georges Didier Huberman, et j'aimerais que vous nous le lisiez pour clore cette émission.
D'accord. Ce matin, comme souvent, dans la station de métro près de chez moi, tout au bout du quai, il y a un clochard endormi. Un sans-logis, sûrement, un sans-papier, qui sait. Justement, il dort dans de grands lambeaux de papier coloré qu'il a déchiré de l'affiche publicitaire sous laquelle il s'est installé. Misérable drap déchiré de quelque appel au luxe. Le colleur d'affiche, un immigré, est sur place, nous parlons un peu. Il m'explique qu'il voit cela tous les jours. C'est une pratique courante désormais avec le froid de l'hiver chez les plus démunis. Je repense à ce récit ou cette légende que mon père me racontait lorsque j'étais enfant. À une certaine époque, Picasso aurait été si pauvre qu'en hiver, il utilisait ses propres dessins comme drap et couverture. Désormais, c'est dans la publicité capitaliste qu'il faut gratter un peu pour ne pas crever de froid. Quelle valeur attribuer à toutes ces choses? Je veux dire, le sommeil du sans-logis, l'affiche publicitaire utilisée comme couverture, le produit dont l'affiche faisait la réclame, le dessin de Picasso, etc. Mais qu'entendre exactement par valeur? Il n'y a-t-il pas au moins deux sens et par conséquent deux valeurs possibles de la valeur? La première valeur, c'est une forme d'avoir. Elle suppose donc une estimation et au-delà, une hiérarchie incarnée dans le cours des valeurs que scrutent au jour le jour les boursicoteurs de la culture, de la morale ou de la politique. Elle réifie, elle chosifie ce qu'elle valorise. Elle vise la possibilité de l'échange généralisé et de la capitalisation. Cela vaut tant, d'accord, je te l'achète, je le revendrai plus tard à profit, bien sûr. L'autre valeur, de la valeur, lui est tout opposée. C'est une forme d'être. Elle se donne ainsi comme l'inestimable par excellence. Elle ne s'achète, ni ne se vend, ni ne s'échange contre quoi que ce soit d'autre. C'est elle que revendiquent jusqu'au bout les résistants attachés au poteau d'exécution, ou bien les rêveurs éveillés, ou bien ceux qui sont si fatigués qu'ils ont sommeil et s'écroulent sur un quai de métro.
Diriez-vous, Georges D. Duberman, qu'on en manque de ces valeurs, les dernières que vous venez de décrire?
On en manque dans le discours ambiant, mais on n'en manque pas. On est toujours aux prises avec les valeurs les plus importantes. Simplement, toute cette circulation qui nous entoure, qui nous étouffe, fait oublier ces valeurs qui sont inestimables.
Et écrire, justement, c'est les faire survivre, c'est les ressusciter pour vous.
Exactement, c'est se souvenir de ça.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Pour ces paroles, pour ces images aussi si précieuses, éparses, votre dernier livre, Georges D. Duberman, est publié aux éditions de Minuit. C'est un texte à la fois glaçant et très beau. Tout de suite, les médias, Dorothée Barba, juste après ça.
Je ne t'attends pas au bout d'une ligne droite. Je sais qu'il faudra faire encore des détours. Et voir passer encore des jours et des jours, mais sans que rien ne vienne éteindre notre hâte. Il pleut chez moi.
Chez moi le soleil est de plomb. Quand pourrons-nous enfin marier nos saisons? Quand pourrons-nous rentrer ensemble à la maison? Nous avons le temps. Pourquoi est-ce si long?
Mes habits parfois des traces de poussière et le parfum fané des amours passagères qui m'ont rendu la solitude plus légère. À l'aube de mes nuits blanches et solitaires.
Et toi, mon bel amour, dis-moi s'il y a des hommes qui t'ont rendu la vie un peu moins monotone, qui t'aident à supporter l'hiver après l'automne et les silences obstinés du téléphone.
Nous nous raconterons nos triomphes, nos fêtes, mais comment s'avouer nos défaites, l'angoisse qui nous tient, l'angoisse qui nous guette, et s'accroche à chaque pensée, à chaque geste.
Je sais que tu seras